la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.
Eh bien le bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices. Merci d'être à l'écoute de votre émission littéraire, un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère. Non, cette introduction n'a pas été écrite par l'intelligence artificielle ChatGPT, bien que le thème de cette émission soit la science-fiction. La science-fiction, ce genre narratif qui cherche à décrire un état futur du monde en s'appuyant notamment sur la science actuelle, tout en anticipant ses progrès à venir et leurs conséquences sur l'humanité. Le progrès ou l'évolution régulière de l'humanité et de la civilisation vers un but idéal, soit en 1914 dans les tranchées de Verdun, quelques poilus rêvant à des aéronefs sans équipage dont le pilotage serait télécommandé qui s'appellerait des drones. Et oui, la guerre des tranchées est encore présente en 2023, on salue d'ailleurs la Finlande qui vient d'entrer dans l'OTAN aujourd'hui. L'histoire est un perpétuel recommencement, nous a affirmé l'historien grec Thucydide, qui, après un échec militaire, fut condamné à l'exil. Selon lui, dans la mesure où il procède de la nature humaine, les événements de l'avenir ressembleront à ceux du passé. Bonjour Nicolas, es-tu d'accord avec cela ?
Bonjour, oui, complètement.
Pauline présente le mois dernier, et celui-ci encore, l'histoire est un perpétuel recommencement. Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Marlène qui a passé une super journée là, et en forme. Salut Marlène.
Salut.
Donc, avec sa nouvelle coiffure.
Ouais, avec, mais tu l'avais pas vu ce d'un moment quand même.
Hein? Je l'avais pas vu avec tes cheveux longs.
Si, non
25 en moins.
Ouais, c'est ça. Alors, la science-fiction, donc, un genre narratif qui cherche à décrire un état futur du monde en s'appuyant notamment sur la science actuelle, tout en anticipant ses progrès à venir et leurs conséquences sur l'humanité. Non, c'est Le Figaro. C'est comme si en 1956, en 1956, on imaginait un état, par le biais d'un sous-marin, faire exploser un gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne, ou encore mieux, vider des puits de pétrole sous-marin dans une zone contrôlée par l'ennemi. Et oui, Pauline, Le Dragon sous la mer de Frank Herbert, l'auteur de Dune et de Destination Vide, qui a débuté sa carrière d'écrivain en 1956 avec Ce Dragon sous la mer.
Oui, alors ça, moi j'ai découvert que c'était son premier roman en faisant ma chronique, et j'avoue que je suis scotchée de me dire, voilà, le mec, il fait son premier jet de roman et il écrit ce livre-là. C'est du délire, c'est dingue. Alors l'histoire, on a un peu une espèce de l'équivalent d'une guerre avec les deux gros blocs Est-Ouest. Évidemment, ce qui manque à tout le monde, c'est le pétrole. Tiens.
C'est bizarre.
Et donc, les États-Unis ont créé ces sous-marins gigantesques qui vont dans les zones ennemies vider les puits de pétrole. Alors, c'est hyper dangereux puisque, évidemment, ces zones sont ultra défendues, etc. Mais voilà, c'est le seul moyen d'avoir du pétrole. Sauf que jusque-là, ça marchait très bien. Et là, les 20 dernières missions ou les 30 dernières missions ont totalement échoué parce que l'État suppose que des agents dormants du bloc de l'Est se réveillent, sont activés, entre guillemets, pendant les missions et font échouer la mission. Et alors, c'est la tuerie, on perd le sous-marin, on perd l'équipage, etc. Et donc, l'État décide de mettre en place un psychologue dans un des sous-marins qui part en mission, le RAM, qui va essayer d'observer ce qui se passe en direct sur l'aspect psychologique. Il a des outils hyper avancés, hyper pointus, qui permettent d'analyser le comportement, ce qui se passe dans l'esprit de chacun, etc. Et donc, il va rentrer dans l'équipage de ce sous-marin, donc il va être ultra formé sur la gestion électronique du sous-marin, etc., et faire partie de l'équipage qui est composé de 4 hommes, le capitaine et trois autres manœuvres, je ne sais pas trop comment on dit. Et donc, là commence un huis clos. Alors, Je vous le cache pas, je suis fan de ce genre d'ambiance complètement enfermée. Là, moi, j'adore ça. En plus, alors sous la mer, voilà, il y avait tout. Moi, il y avait tous les ingrédients pour me plaire. C'est tout ce que j'aime. Et je m'attendais à de la SF, méga SF. On est sur Frank Herbert. Moi, je connaissais comme tout le monde Dune. Et là, en fait, c'est un roman, en fait, hyper psychologique. Alors, il y a un gros aspect science-fiction, un gros aspect technique. Et là, je vous avoue qu'il y a eu des moments, je voyais globalement ce qui se passe. Dans le détail, lui, il va super loin sur, il démonte telle lampe, il fait tel truc. Alors, c'est marrant, il y a un truc, il y a un terme qu'il utilise qui m'a vachement gêné tout le long. Il dit parle beaucoup des télévisions du futur. Alors, là, il a loupé son coup, mais.
Pourquoi c'est quoi une télévision du futur pour lui?
C'est un écran, une espèce d'écran, mais voilà, il a même pas le terme écran, il dit télévision. Ça, j'ai trouvé ça vachement rigolo.
C'est le smartphone de 1956.
Bah ouais, ouais. Donc voilà, il y a tout un aspect futur dans le sous-marin, sa construction, c'est incroyable parce qu'on imagine totalement le sous-marin qui traîne son espèce de filet qui va recueillir le pétrole dans la zone ennemie. Donc il y a tout cet aspect-là très technique. Et moi, ce qui m'a peut-être plus marqué, c'est tout l'aspect psychologique du fait d'être enfermé déjà. Bon, bah, évidemment, on est dans un sous-marin, on est quatre, on est enfermés ensemble. Donc il y a cette pression de l'enfermement, il y a cette pression de la mer. En fait, c'est quelque chose de constant chez eux. Ils sont toujours à mesurer à quelle pression on a sur notre coque et qu'est-ce que... Voilà, jusqu'où on peut aller, à quelle profondeur, sans que notre sous-marin implose. Il y a la pression de la mission, de ramener du pétrole. Il y a la pression de se battre contre l'ennemi. Et en plus, petit à petit, en fait, ils commencent tous à ressentir la pression de se dire, si ce gars-là, donc ce psychologue, eux ne le savent pas. Le reste de l'équipage ne sait pas. Il est là en tant qu'électronicien, je ne sais plus quel terme ils utilisent. Officiellement, mais petit à petit, il se doute qu'il a un rôle autre. Et donc, il y a toute cette suspicion de qui va péter les plombs, qu'est-ce qui va se passer dans le sous-marin, pourquoi il est là, ce gars-là. Et donc, c'est aussi hyper psychologique. Il y a des scènes ultra marquantes où donc le héros, entre guillemets, même s'il n'a pas vraiment un rôle, le personnage principal, on va dire.
Le psychologue.
Ouais, le psychologue. Et dans le sous-marin, et d'un coup, il réalise qu'il a des milliards de litres d'eau qui appuient sur le sous-marin. Et il a ce moment de terreur absolue, de l'écrasement de la mer. Et enfin, c'est incroyable, ça te coupe presque le souffle. Et là, c'est pour ça que je dis que quand j'ai lu que c'était son premier roman, je me suis dit... C'est dingue, c'est génial. Alors, j'ai trouvé peu de critiques, c'est pas un livre qui doit être énormément lu.
Il a été bien accueilli par la critique, mais il n'a pas été un succès sur le plan commercial quand il est sorti.
Ben non, je pense pas, ouais, parce que...
Écrasé par Dune et le cycle Dune, oui. Ouais. Voilà.
Et il était psychanalyste, à la base, avant d'être de devenir
et
écrivain.
Et ça se ressent, parce que...
De toute façon, dans tous ces personnages, il y a beaucoup de psychologie à chaque fois.
Oui,
hein. C'est très, très psychologique. Moi, j'avais découvert ce bouquin en fait quand après avoir lu tout le cycle Dune, en fait, je m'étais assez intéressé à Frank Herbert et en fait, j'avais racheté des bouquins après en cherchant ce qu'il avait écrit d'autre. Et j'étais tombé vraiment aussi par hasard.
Je pense qu'il est même plus édité parce que quand j'ai fait des recherches, mon premier résultat, c'était pas un site de vente de livres. Hein. Donc
c'est possible.
Ouais. Non, mais ça fait un moment que je l'ai. Hein.
Ouais, je pense. Ouais. Hein, je sais pas de.
Il est.
Je pense qu'il y a une année, j'ai acheté ça.
Ben 1956.
Oui, merde, c'est ça. C'est gentil.
Ils expliquent. Alors moi, j'ai appris que Dune, il n'avait pas terminé, qu'il était mort avant, et que c'est son fils, un autre écrivain, qui l'a fait terminer.
Il a même été un peu poussé, visiblement, à écrire la suite de Dune. Lui, il voulait écrire le premier livre, et puis face au succès commercial, il a été fortement encouragé.
Le film avec Bowie, ça reprend tous les livres ou que le premier de Dune, du coup? Enfin, je sais pas si vous
savez, je pense
d'ailleurs.
Pas qu'il y ait tout le cycle. Hein.
Il y a pas tout le cycle. Il y a les trois premiers cycles. Il y a les trois premiers bouquins.
Que lui a écrit.
Il y a l'Empereur Dieu de Dune. Ça s'arrête quand il devient l'Empereur Dieu, en fait. Donc, il doit y avoir trois bouquins de Dune, à peu près. Mais c'est vraiment les trois meilleurs, d'ailleurs, quand tu découvres.
Tu ressens que l'écriture, elle est plus. Il devait plus être très investi. Hein, je pense.
C'est ça.
Il avait plus très envie.
Moi, j'ai découvert en 85. en fait, Dune, toute, voilà, toute cette trilogie, donc ça remonte à quelques années. Et j'ai découvert parce que j'étais avec trois fans, de, dont mon frangin et un autre qui était complètement fou de, des univers de SF, qui faisaient des études d'électronique et ils sont devenus tous les deux ingénieurs. Et en fait, ils étaient vachement branchés là-dedans. Et quand le premier film de Dune est sorti, de Dino De Laurentiis, ils l'attendaient, mais comme un événement. Ouais. C'était incroyable comme ils étaient plongés. Et c'est vrai que ça a fait rêver des générations de gens. Hein.
Moi, c'est absolument incroyable.
Et quand tu relis aujourd'hui Dune, le djihad butlérien, c'est Dune, en fait, c'est... la planète Arrakis, c'est tout ce qui vivent dessus et qui deviennent, lance un djihad en fait à travers tout l'univers.
Tout l'univers, ouais.
En fait, tu dis mais ça ressemble à beaucoup de ce qui va se passer 20 ans après.
Là,
tu vois.
En fait, le dragon sous la mer,
oui, c'est pareil.
Ben oui,
on n'est pas très loin, je crois. SF,
quand j'ai lu le début, je me suis dit oh là là, ouais, mais ouais. Carrément quoi.
Mais c'est vrai que la SF, elle a cette particularité, c'est que c'est vrai, c'est projection sur l'avenir, mais souvent de phénomènes sociaux. Et d'une lecture, c'est très visionnaire en fait. C'est, on oui. a vraiment le sentiment. Alors, c'est des gens brillants aussi qui écrivent. Hein. Alors, tout n'est pas du même niveau, bien sûr, dans la littérature SF, mais c'est souvent très très documenté, très renseigné. Il y a beaucoup d'études et souvent des scientifiques qui écrivent ça comme une façon un petit peu de se projeter ou de se libérer de toutes leurs recherches en fait. Hein, Isaac Asimov dans Les Trois Lois de la Robotique. Qui vont en parler après, etc. C'est quand même assez. C'est très, très visionnaire, en fait. Oui. Hein.
Et Frank Herbert expliquait, en tant que psychanalyste, qu'il savait que l'homme embarqué dans un sous-marin, finalement, n'affronte pas que les dangers extérieurs, mais aussi, il a même ennemi plus sournois, plus insidieux, c'est lui-même, avec ce huis clos.
Et on le ressent à fond. Enfin, super lecture, tout petit livre, mais que j'ai pris beaucoup de temps à lire. Parce que c'est d'une richesse incroyable. Enfin, ouais. Excellente lecture. Génial.
Ben écoute, merci.
À recommander.
Ah oui.
Mais il n'est plus en vente.
Ben je pense
non,
pas.
Non, il doit être en vente.
Je peux louer. Hein.
Ouais. On peut louer.
Chez les bouquinistes, hein, sinon.
Ouais.
Chez les bouquinistes.
Non, mais.
Vous n'avez pas un rayon SF à la.
Si, mais nous, tu sais, on fait du désherbage, donc même les classiques, ça, au bout d'un moment, ça...
93, c'est parti à la poubelle.
Ouais, c'est ça.
Je regarderai, mais je pense.
Oui, mais je pense qu'on peut le trouver encore, quand même. C'est un grand auteur de science-fiction, toute son œuvre. Allez, on va parler d'Amnésie à Manhattan avec Marlène, qui va nous présenter Jeunesse de la Cité, N.K. Jemisin. Je pense que ça se dit, c'est Nora Keita Jemisin, qui est une romancière afro-américaine des littératures de l'imaginaire.
Alors, je sais pas, contrairement à vous, moi, je suis pas du tout science-fiction à la base. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Bon, j'ai eu du mal à rentrer dans celui-là, quand même. Même si, après, pour être allé voir les critiques, je sais que c'est une autrice qui a reçu des prix, mais pas pour là, ce cycle
non.
Qu'elle vient juste d'attaquer, d'ailleurs.
Ils ont quasiment tous les livres qu'on a présentés, ils ont eu le prix Hugo.
Voilà.
Alors, ça doit être un prix de SF, j'imagine.
Oui, c'est un prix SF.
Ouais.
Quasiment
prix Nebula, prix Hugo, etc.
Voilà. Donc, elle était dans les... Voilà, elle a été primée aussi, mais pas pour cette... Pas pour cette série-là. Alors, du coup, l'histoire, ça se passe à New York. Et en fait, elle a monté toute son histoire autour des quartiers new-yorkais. Qui sont, en fait... Qui vont s'incarner dans des personnages. Mais ces personnages-là n'ont pas choisi, en fait, d'être... Enfin, de devenir une partie de la cité, en fait. C'est un petit peu... Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous embarque où ? Je pige pas tout, là, parce que... Voilà, on voit chaque personnage qui... Donc, alors, il y en a un, celui qui commence. Donc, il arrive à la gare de... Comment ça s'appelle ? De Penn Station.
De Penn Station.
Et en fait, il oublie qui il est. OK. Il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas comment il s'appelle. Et puis, bref, il fait des espèces de malaise. Il commence à voir la ville qui bouge, qui se transforme. Enfin, voilà, il voit des trucs un peu bizarres. Donc, lui, c'est côté vision, là, qui va être un peu... voilà. Et au moment où on lui demande qui vous êtes, voilà, il reste coincé. Et il voit, du coup, puisqu'il est à la station, il voit affiché Manhattan. Et il fait, Mani. pour Manhattan. Ok, bon, voilà. Et en fait, tous les personnages, comme ça, on va les découvrir au fur et à mesure. Alors, soit ils ont vraiment un choc de s'approprier un quartier comme ça, soit ils ont du mal, ils le réfutent pendant un petit moment. Enfin, voilà, c'est un peu... Donc, chacun va avoir un quartier. Donc, on va avoir Brooklyn, qui va être incarné. On va avoir le Bronx, par... une personne qui va s'appeler Bronca, le Queens, Jersey City, l'île de... Elle est où Ah, aidez-moi, j'ai perdu le nom de l'île.
Iceland.
Voilà. Donc, du coup, ça va être Aislinn. Enfin, bon, voilà. Et chaque personnage, en fait, va représenter les minorités, parce qu'en fait, finalement, ce livre, c'est ça, en fait. C'est... les minorités de chaque quartier sont représentées et sont incarnées dans un personnage, qui peut parfois être caricatural ou pas, mais bon, voilà. Et en fait, les forces du mal vont se déployer dans la ville, et le but, c'est qu'ils doivent s'unir pour contrer l'attaque. Voilà.
Les Power Rangers, quoi.
Voilà. En fait, ça va être un peu ça. Mais du coup, ils doivent coopérer, ils doivent, voilà. Et il va y avoir, donc, comme ça, tout un jeu où, ils se réunissent, entre communautés, c'est pas toujours facile.
T'as
l'asiatique avec
Chinatown,
la blague, elle peut pas se la voir.
T'as l'Italie, ok, d'accord.
Et la dernière, c'est l'île, justement, qu'on oublie tout le temps.
C'était
fait exprès. Voilà. Et du coup, Aislinn, elle, c'est la petite dernière, l'Irlandaise, qui est un petit peu oubliée. Et que du coup, les forces du mal essayent d'attraper un peu plus pour avoir une entrée sur les autres. Et voilà. Donc au total, on a 6 personnages. Enfin, 5 qui représentent vraiment les quartiers et un qui fait un petit peu le lien entre tout le monde. Qui lui s'appelle Sao Paulo. Et du coup, voilà, ils vont s'associer. Et le but, c'est de combattre l'invasion de New York, voilà. Après, ils vont avoir tous un aspect différent de comment s'incarne le mal pour eux dans la ville et dans leur quartier. Donc, il y en a, c'est un peu la vision. Celle de Brooklyn, du coup, c'est elle quand c'est la musique qui lui permet de voir des choses différentes. Enfin, voilà, chacun a comme ça un aspect, mais qui se rattache toujours à la caricature qu'on peut avoir des minorités qu'il y a dans chaque quartier, en fait. Voilà à peu près en gros pour l'histoire. En soi, je pense que peut-être que quand on est américain et qu'on connaît très, très bien New York, je pense qu'on doit retrouver des détails de la ville et des détails de ce qui est décrit et tout, qui sont... Moi, je connais pas, donc je suis restée avec une lecture assez éloignée de ce côté-là. Voilà.
Le scénario de base est sympa de représenter les quartiers par des personnages. C'est une écrivaine militante, féministe, blogueuse, engagée. Donc j'imagine qu'elle avait...
Ça se ressent, hein.
Oui, elle a dû se servir de la...
C'est son premier roman.
Non, du tout, justement. Non. Elle a eu des prix pour une première série.
Alors là, les
livres de la terre aussi. Voilà.
Comment ?
Sur la SF ou sur...
Oui,
la...
Oui, sur la SF. Oui, elle écrit de la SF.
Ouais, ça me dit rien.
Mais par contre, là, son cycle Mégalopole, c'est le numéro 1, c'est le premier, en fait. Là, le deuxième n'est pas encore traduit en français, mais ça ne va pas tarder.
Elle n'a pas eu de prix pour celui-là. Ouais. Elle a eu le prix Hugo d'affilée 2016, 2017, 2018 pour 3 tomes de sa série Les Livres de la Terre Fracturée.
En fait, les 3 tomes.
Voilà, c'est ça. Et après, elle a eu son dernier roman à remporter le prix Locus du meilleur roman de fantasy, le prix Nebula.
C'est aussi un des prix.
Les cieux pétrifiés en 2017. Et c'est là où on n'en parle pas dans sa...
Voilà, mais bon, celui-là, il a été... Enfin, chez nous, il est sorti en 2021. Voilà. Et non, là, son deuxième tome, on va bientôt l'avoir, en tout cas, traduit. Mais bon, après, c'est riche, hein. Honnêtement, vu que c'est pas forcément un style qui m'attire
pas l'air
tout
emballé,
de suite,
ouais.
Je suis pas... Mais je... Enfin, voilà.
Quel âge ?
Non, c'est adultes.
Ah, c'est adultes aussi. Ouais. Comme toi d'ailleurs, je t'ai pas demandé.
Oui, c'est adulte. Clairement adulte.
Ok, la maison d'édition, c'est qui ?
Ça là, c'est Nouveau Millénaire.
Nouveau Millénaire, ok. Je vous ai pas demandé, mais quand vous voulez lire des passages, vous pouvez bien sûr. Y a pas de souci. Ce n'est pas le cas. Très bien. Nico, on va parler avec toi d'une bande dessinée, parce que première bande dessinée et seule bande dessinée de cette émission, alors qu'il y en a quand même beaucoup en SF. Sapiens Imperium, les damnés de Tamza de Sam Tinmel au scénario de Jorge Miguel pour les dessins, inspiré d'une histoire effroyable.
Tout à fait, mais...
Alors, je ne connaissais pas cette histoire.
Mais très réelle.
Mais c'est une horreur, quoi. Je connaissais pas cette histoire. Tu l'as dit ou tu veux que j'en parle ?
Non, vas-y, parle-en. Hein.
Alors, en 1972, le roi du Maroc, Hassan II, échappe à un attentat organisé par un proche, le général Oufkir. Ce dernier est exécuté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sa femme et ses 6 enfants, dont le plus jeune est alors âgé de 3 ans, sont jetés dans un cachot dont ils ne sortiront que 19 ans plus tard. Donc c'est à partir de cet événement qu'il a imaginé le destin des damnés de Tazma. Donc après, je me suis intéressé à l'histoire de cette famille. 19 ans, le plus âgé, il avait 18 ans quand il était rentré. Lui, il était à part. Sa femme était, et qu'il connaissait bien parce qu'il était de la haute société, il avait monté les échelons. Elle était restée avec le plus jeune. Ils s'étaient tous séparés pendant 19 ans. C'est horrible.
C'est incroyable.
Et donc lui, il s'est fait tuer. Alors c'est marrant parce que Mohamed Oufkir, il a été retrouvé mort avec 5 balles dans le dos, selon la version officielle, il se serait suicidé.
Ah bah
hop,
oui.
Dans le dos. Ah mais je me suis loupé.
Et surtout 5 fois, c'est trop fort quoi.
5 fois, ouais, c'est quand même énorme. Et après, j'ai lu des interviews de cette dame qui est morte il y a pas longtemps et qui pouvait dire du bien d'Hassan II en disant il a quand même fait des choses bien pour le Maroc. Bon, les grands hommes peuvent faire parfois des petites choses. Enfin, ouais.
Il faut un sacré recul pour réussir.
Plein
à...
d'articles sur elle. C'est une histoire complètement folle.
Ouais, moi j'ai découvert vraiment par hasard ce bouquin. Je cherchais pour acheter pour mon frangin qui aime beaucoup ça, la SF, là, en BD. Et en fait, je suis tombé sur cette histoire que j'ai trouvé vraiment. Alors, ça, c'est le tome 1, il y a la suite, hein. Mais qui n'est pas encore paru, donc j'attends la suite parce que c'est vraiment passionnant.
Ça dure 19 ans.
Non, bon, après, si tu lis pas ce qu'il y a derrière, tu fais pas forcément
le lien.
Parce qu'en fait, c'est tellement. Ça existe tellement dans notre monde, ce genre d'histoire, que c'est pas spécifique. Mais j'ai trouvé intéressant que, quand même, connaissant un peu l'histoire du roi du Maroc, et tout ce qu'on raconte, et tous les gens qu'on a accueillis ici, et qui nous ont parlé en bien. Enfin, découvrant ça, je me suis dit, waouh, c'est quoi cette histoire, quoi? Et c'est vrai que l'originalité est qu'on suit le parcours d'une jeune fille, en fait, qui va devenir une femme, qui se soulève contre l'oppression. Donc, elle va être aidée par un des fils de l'empereur, sachant que le frère Félon va tout faire pour les détruire. C'est du déjà vu, tout ça, mille fois, comme on dit, hein. Mais dans ce bouquin, c'est assez bien exploité. J'ai bien aimé aussi dans cette BD le dessin de Jorge Miguel qui est vraiment très beau. Voilà. J'aime bien ce genre de graphisme. Hein. Ça fait vraiment penser à des grandes épopées de SF. Donc le dessin est précis, très coloré, très bien amené quoi. Voilà. Les planches sont bien montées, donc c'est.
Je le montre, on peut pas le voir, mais.
C'est vraiment des belles planches et on peut dire que c'est un vrai space opéra, hein. Ça se passe dans une galaxie, il y a 135 milliards d'êtres humains et on fait un lien quand même qui est assez proche de Star Wars, hein. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Bon, derrière, il y a le fond de cette histoire de cette jeune fille. On attend la suite parce qu'en fait, dans ce premier tome, elle se révèle. Mais on ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais on sent qu'il y a un focus qui est fait sur elle. Et donc, on attend la suite. Voilà. Donc, il y a des personnages. Alors, c'est difficile de trop dévoiler un petit peu l'histoire. Mais ouais, moi, je le recommande. J'ai trouvé... c'est un beau moment de lecture sur une histoire quand même qui est assez originale. Quoi. Mmh. Ouais.
Donc, elles sont emprisonnées sur une planète, hein, c'est ça? Ok, super. Tiens, c'est sorti il n'y a pas longtemps, alors si tu attends le tome 2.
Enfin, je sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti.
Je ne l'ai pas noté. Bon, on cherchera pendant la pause. On le donnera après. Ok, merci Nico. On va parler de l'auteur américain Philip Kindred Dick. Donc, à part Nico, parce que c'est son livre, qui connaît cet auteur ici?
Ubik.
Dick.
Kadik. Non, mais qui a écrit Ubik, non?
qui a écrit je ne sais pas.
Alors, si, je peut-être. Pense que Bowie qui a écrit plein de trucs en fait.
Ouais. Oui, il a écrit tellement. Alors pour vous dire, c'est l'auteur qui a inspiré les films Blade Runner, Total Recall, Minority Report, Planète Hurlante, Scanner Darkly. Donc ça, c'est tiré directement des nouvelles ou romans qu'il a écrit. Mais il a aussi influencé des réalisateurs de science-fiction dites Dickiennes, c'est-à-dire ayant un propos, une mise en scène, un scénario, une philosophie ou une optique propre aux thématiques de l'auteur. Parmi lesquels Ghost in the Shell, qui est extrêmement connu, ce film d'animation, le 1 et le 2, de Mamoru Oshii, Existence de David Cronenberg, etc. Il est né en 1928, mort en 82. Il a reçu plusieurs prix littéraires de son vivant, comme le prix Hugo. Même s'il a passé la majorité de sa carrière dans la quasi-pauvreté. Alors dans ce recueil de nouvelles, c'est un recueil de nouvelles, de 9 nouvelles, on retrouve les thèmes récurrents de l'auteur qui sont la modification et la manipulation de la réalité, la critique sociale et le cynisme des puissants qui imposent une réalité fictive et les deux questions essentielles à son œuvre, qu'est-ce que le réel et qu'est-ce qu'être humain ? Alors si le problème que soulève la première question semble difficile à résoudre, en revanche la seconde interrogation, selon diverses critiques, on trouve sa réponse très tôt dans son œuvre. C'est en fait cette capacité d'empathie qui chez Dick rend certains androïdes plus humains que les humains eux-mêmes. Alors c'était quelqu'un d'extrêmement névrosé, je vais parler un peu de sa vie, dès le départ, dès sa naissance, il a eu une histoire qui a fait que c'était quelqu'un qui était complètement névrosé. Il s'est marié 3 fois, il a divorcé à chaque fois. À chaque fois, il pensait que sa femme voulait le tuer. Il est parti au Canada. Enfin, il a vraiment une histoire compliquée. Et quand il a commencé à être connu et à vendre des romans, il est mort juste après de quelle mort. Alors, dans ce voyage gelé, on trouve 9 nouvelles de 1958 à 1981. Et c'est pas dans l'ordre chronologique. Alors c'est assez compliqué parce que les premières nouvelles, on le sent que c'est moins
fouillé,
il est moins mature dans ses thèmes. Ah, donc on lit une nouvelle, après on passe, il y en a une qui est beaucoup plus travaillée, on revient en 1960, on repart, donc on a l'impression que voilà, l'éditeur s'est dit tiens, je vais en sortir un, j'en prends 9, je les mets dedans, voilà quoi. Le voyage gelé, la nouvelle qui a donné à son titre à ce recueil et a été écrit bien plus tard, donc on retrouve les thèmes, c'est l'exploration de soi, c'est un Kemmings, une personne qui embarquait sur un vaisseau pour un voyage de 10 ans vers une autre planète, et le système de cryogénisation de son caisson est défaillant, donc en l'absence de vivres et d'air, le vaisseau doit le maintenir en état de semi-conscience et lui permettre d'accéder à des souvenirs pour qu'il ne se transforme pas en légumes pendant ce long voyage, donc c'est super intéressant, ça m'a rappelé un peu ce que tu disais sur l'introspection du sous-marin, c'est un peu ça. Et donc il y a plein d'autres thèmes, il y a le retour des explorateurs, c'est intéressant, c'est 6 personnes qui vont sur Mars et en fait la nouvelle commence, donc ça c'est quand il était jeune, de ses nouvelles vers 1958, donc on les voit revenir sur Terre et là ils comprennent pas parce que tout le monde les fuit et à la fin le FBI arrive, les tue et dit ça y est ils reviennent encore et en fait les gens sont morts il y a 20 ans et chaque année une force renvoie ces personnes sur Terre, mais en fait on apprend qu'à la fin de la nouvelle, on voit ces personnes qui sont sur le vaisseau, disent « Waouh, ouais, génial, on va retrouver notre famille, on va manger un hamburger. » Et en fait, non, c'est des androïdes. Donc c'est vraiment intéressant. Que faire de Ragland Park ? Pareil, c'est un musicien qui, dès qu'il crée une chanson, ce qu'il écrit, ce qu'il chante, ça se déroule vraiment. Donc il est l'objet de toutes les convoitises pour réussir à l'avoir, pour changer. Voilà, ça c'est 1959, donc bon, c'est un thème souvent récurrent, mais est-ce que ça a été écrit avant ou pas, je sais pas, c'est quand même il y a assez longtemps. Voilà, donc c'est intéressant de moi je connaissais pas cette personne, alors je connaissais tous ses films, je savais pas que c'était tiré de ses nouvelles à lui.
Il a beaucoup produit, ouais.
Il a beaucoup produit. Ouais. Mmh.
Et sa littérature est très adaptable au cinéma, en fait.
Oui. Mmh.
En 2007, il est devenu le premier et unique auteur de science-fiction publié au sein de la prestigieuse collection classique de la Library of America. C'est l'équivalent américain de la Pléiade. Donc c'est le seul américain écrivain de SF qui a été publié là-dedans. Donc c'est dire. On a créé un prix littéraire en son hommage.
Mais il faut dire qu'en France, on est un des rares pays qui ne reconnaissons pas la SF comme un véritable...
C'est ce que j'allais te dire.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de littérature. Hein, policiers, c'est la même chose.
Oui, oui, tout à fait.
Non, mais la SF, elle est encore plus classée dans les catégories, oui. Je sais pas, enfin, pas
c'est populaire.
Ouais, mais c'est même pas ça. C'est ouais. C'est...
Non, mais c'est ça.
Un genre,
un genre bas de gamme.
Oui. Ouais, c'est ça. Oui.
C'est un sentiment bas de gamme. Alors que quand tu lis ça, c'est ça. T'as de l'écrit qui est.
T'as des visionnaires quand même. T'as énormément de.
Ouais, mais même dans le style, je trouve.
Oui,
qu'il y a,
oui. Ah oui.
Qu'il y a des gens quand même dans l'écrit, dans la façon d'écrire. Dans... Oui. Enfin, tu reconnais le Kadic, tu reconnais. Asimov, tu reconnais. Voilà.
Heureusement qu'on a eu Barjavel pour l'étudier à l'école, sinon.
Barjavel, on n'était plus sur. Plutôt de l'anticipation que de la vraie SF, tu vois, t'as pas de vaisseau, t'as pas tout ça, c'est plutôt une...
Oui, oui, c'est vrai.
Oh, on est dans un sous-genre de la SF, quand même.
C'est un sous-genre, ouais.
Ouais, c'est un sous-genre. Mais plus sur de l'anticipation, sur ce qui va se produire.
Oui, t'aimes la SF pure, la pure...
J'aime beaucoup l'anticipation aussi, je trouve que c'est... C'est pas une question de genre, c'est une question d'écrit et la façon dont les auteurs, si tu veux, s'approprient ce qui se passe dans le monde et comment ils le voient et comment ils anticipent sur ça en se disant finalement vers quoi on va. Parce que, par exemple, tout ce qui est IA, intelligence artificielle, on en parle énormément aujourd'hui, mais tout le monde a écrit sur l'IA.
Oui.
Quand tu lis les robots d'Asimov, ça date des années 70, par là.
Mais
c'est vachement précurseur.
À cette époque,
les trois doigts de la robotique, tout ça.
Quels sont les écrivains français reconnus en SF de cette époque-là ?
Damasio. Non, c'est plus tard.
C'est plus tard, de cette époque, il y avait personne.
Mais ça fait longtemps qu'ils écrivent. Ça fait longtemps qu'ils écrivent.
Ouais, mais après, c'est pareil. Est-ce que c'est aussi parce que ce genre fait... Oh là là, je vais utiliser ça. Fait un peu peur où il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire, justement, les projections, etc. Parce que du coup, il y a peu de gens. Comme tu dis, c'est des passionnés. C'est souvent des passionnés qui s'intéressent à ce genre.
Des scientifiques aussi.
Des scientifiques, des passionnés. Mais du coup, c'est une petite part, enfin c'est pas critiquable ce que je dis, c'est vraiment juste, du coup ça touche vraiment ça. Après je pense que si on fait, mais même encore à l'heure actuelle, si on interroge des lecteurs lambda dans la rue, eh ben je pense qu'en pourcentage il y en a très très peu qui sortiront la SF.
Oui. Par contre, les lecteurs de SF sont sont collectionneurs de SF.
Passionnés.
Tu vas dans des librairies de SF. C'est, alors même le classement est rigolo. C'est classé par collection. Enfin, c'est vraiment. Tu sens que c'est des passionnés absolus.
Mais pour moi, la réponse est plus dans l'éducatif. Elle est pendant très longtemps, on n'a pas considéré que ce genre littéraire.
Oui, en plus, il y a l'aspect littéraire.
Et toujours,
on l'enseignait, tu vois. On l'enseigne un tout petit peu et encore.
C'est toujours pas. Ouais.
Mais comme la fantaisie.
C'est dans les programmes de collège, mais.
Moi, par exemple, à mon époque, aucun enseignant m'aurait parlé de SF. Voilà.
Ça fait partie aujourd'hui,
ça fait partie des programmes, mais les enseignants, ils sautent pas à pieds joints dessus, quoi. C'est rare.
Qu'est-ce qu'on fait lire aujourd'hui?
Barjavel, je pense que c'est une porte d'entrée. Alors là, on doit sur imaginer des mondes nouveaux, ça doit être niveau 3e. Donc je pense que oui, on a des choses Barjavel. Moi, j'ai des collègues qui... les chroniques martiennes, Fahrenheit...
Ok.
Ouais.
Bon, mais c'est bien.
Oui.
Et la fantaisie, on fait lire ou pas? C'est encore pire que la SF.
Dans les programmes, ça va être assez dur à...
Parce que c'est un peu le même principe, la fantaisie.
Ça peut rentrer dans l'aventure un peu.
Ouais, mais la fantaisie, moi je suis pas tout à fait... Parce que je le vois plus avec ma pratique en bibliothèque. La fantaisie, elle est plus accessible parce qu'il y a beaucoup plus de films aussi. Il y a beaucoup plus de communication sur ce style-là. La SF, beaucoup moins.
Et vraiment, en jeunesse,
c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait peur aussi, dans le sens où
oui, ça pourrait arriver, je veux pas le savoir.
C'est ça. Et du coup, ça communique beaucoup moins là-dessus. Alors que la fantasy, on s'en fiche.
Oui.
C'est de la pure fiction.
C'est vrai.
Voilà.
Peut-être.
La SF, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qui, effectivement, nous font penser à des choses qui se passent, qui sont passées, qui vont nous penser. Voilà.
On s'est dit, oh là là.
La fantasy, j'ai peu de chances de croiser un vampire quand même qui vienne.
C'est la fiction en rock de père, il paraît qu'il y a des elfes. Hein.
Et des trolls.
Voilà. Et des trolls. Attention,
on a
voiture.
On a le Drac, les Fadarel, les Ahus. Voilà. Non, mais bon.
Non, mais tu as
raison. Il y a peut-être ça aussi.
Il y a peut-être ça aussi.
Oui, il y a peut-être une espèce d'appréhension sur une lecture de notre avenir. Après, on n'a pas lu les rapports du GIEC non plus. Hein. C'est de la SF en 2011.
Oui, mais...
C'était de la SF de dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'eau. Hein. Pourtant, c'est sorti en 2011.
Et les virus et le nombre de pandémies qui ont été annoncées.
Bien sûr.
Bon, ben voilà. Hein.
Dans tous les bouquins de SF, tu trouves...
Ah, mais c'est sûr, oui.
Mais du coup, ça... Enfin, voilà. Ça...
Alors il faut conseiller à nos lecteurs de lire de la SF et puis comme ça ils feront les bons choix peut-être.
C'est ça, exactement. Pour terminer, avant de faire une pause musicale, donc je vous l'ai dit, c'est un auteur qui était complètement névrosé. Alors mis à part le divorce de ses parents quand il a 4 ans qui l'a vraiment marqué. L'un des faits qui a poussé l'auteur à de nombreuses naissances, suit à sa naissance, il est né avec une sœur jumelle, Jeanne Charlotte, en 1928, et sa mère n'ayant pas assez de lait et pas assez d'argent pour recevoir l'aide médicale qu'il aurait conseillé pour complémenter le régime des nourrissons, Jeanne meurt quelques semaines plus tard de sous-alimentation. Donc le décès de ce jumeau fantôme l'affectera jusqu'à la fin de ses jours et toute sa vie il reprochera leur misère à ses parents qu'il considérera comme de la négligence, sentira qu'une partie de lui-même est manquante et on le retrouvera dans ses romans, cette sœur fantôme qu'il n'a jamais connue en fait. Alors qu'il sentait sa présence, parce que quand on est jumeaux, vous savez, le lien qu'on peut avoir. Alors, j'ai un petit jeu pour égayer ce passage qui n'est pas du tout
bien. Qui était très
sympa. Qui était très sympa. Alors, le groupe...
Qu'est-ce qu'on gagne ?
Écoutez-moi, eh bien, je vais te dire ce que tu gagnes, parce qu'il y a quelque chose à gagner. Ah. Le groupe de rock progressif français Taifong, en 1975, sort la chanson Sister Jane. Un slow conçu pour intégrer les maisons de disques, le titre Sister Jane se veut un hommage aux chansons Sister Ray et Sweet Jane du Velvet Underground de Lou Reed, mais également fait référence à Philip K. Dick, affecté jusqu'à la fin de ses jours par le décès de sa sœur Jane, jumelle de l'auteur de science-fiction, qui est morte peu après sa naissance. Le single se positionne à la 20e place du hit parade français, se vend à 200 000 exemplaires. Attention, le groupe fait appel à un chanteur français extrêmement connu. Je vous laisse écouter et dire, mes chers chroniqueurs et chroniqueuses...
Je peux pas dire juste les initiales.
Non, tu ne peux pas dire.
Facile.
Comment tu sais ça?
Trop facile.
Bon, mais tu ne dis rien. la personne qui trouvera pourra décider du thème de la prochaine émission. Allez, on écoute ça. On revient après.
Sister Jane, you left me all alone.
Allez, on revient. Sachez que Pauline n'a pas parlé de toute la pause musicale pour être bien concentré. Nico, tu commences. Qui est cette
Ringo
Starr? Ce n'est pas lui. Pauline qui s'est bien concentrée.
Bah ouais, mais j'ai pas trouvé. Alors
Tente.
C'est pas Balavoine, ça ressemble, hein. Mais non, c'est pas assez, non, pas assez poussé.
Je sais bien dans la pause.
Christophe. Marlène.
Gigi J.
Jean-Jacques Goldman.
Oh, mais putain. Oui, mais maintenant que tu le dis, c'est tellement évident. Voilà, je savais que ça allait m'agacer.
Ah, je le savais dès que tu as dit le nom du groupe.
Je n'écoute pas ça.
Mais il est tout jeune. Il a une voix tout jeune.
Et
tout
c'est là où je l'ai rencontré.
De prépubère.
Oui,
Michael Jones.
Michael Jones, c'est ça. Allez, autre petit jeu qui peut annuler la victoire de Marlène.
Mais c'est nul, ça.
Le film Blade Runner est tiré d'un roman de Philippe Dick. Quel est son nom? Attention, il y a un piège.
Blade Runner.
Non. J'en étais sûr. Non.
Runner Blade.
Donc, c'est les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?
Ah, c'est
oui,
ça.
Oui, mais bien sûr, je le savais.
Je savais ça. C'était ça.
Bon. Voilà, gagné.
Non, ceci
coup.
Dit, je connaissais le titre, tu mais alors je ne savais thème. Pas du tout que c'était voilà. ça qu'avait donné Blade Runner.
C'était ça. Donc, Marlène, tu as encore toute la moitié de cette émission pour trouver le thème de la prochaine fois. Et si tu ne trouves pas, ben, tu décideras la semaine prochaine.
Ça okay. marche.
Allez, on va parler de bruit et de silence. Pauline, Le Chaos en Marche, tome 1, La Voix du Couteau de Patrick Ness, qui s'est vu décerner en Grande-Bretagne pléthore de prix et les prix littéraires les plus importants, le prix Guardian, le Book Trust Teenage Prize, Costa Book Award, médaille Carnegie 2011, etc., etc.
Et c'est normal.
Ben oui.
Et je ne comprends pas pourquoi en France il n'a pas été en tête de gondole de tous les espaces jeunesse, de toutes les bibliothèques, de toutes les librairies. Il a eu un succès fou ailleurs et très franchement c'est mérité. Et en France, j'ai l'impression qu'il est passé un peu inaperçu, ce bouquin. Et pourtant, c'est génial. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez, même en tant qu'adulte, hein, je pense, vous ne vous arrêtez plus. C'est-à-dire que vous ne dormez plus.
Ne l'ouvre pas.
Vous n'allez plus au travail. Vous êtes obligé d'arriver jusqu'au bout. Alors, voilà, vraiment. Ouais, incroyable. Enfin bon, je vais vous raconter un peu l'histoire hein, quand même. On rencontre un jeune homme, Todd. Il vit à Nouveau Monde. Il joue dehors avec son chien. Il fait des travaux dans les champs. Parce qu'en fait, Nouveau Monde, c'est un tout petit village avec quelques hommes, peut-être une cinquantaine, je sais pas, qui semblent être les derniers survivants, peut-être de leur planète. On saisit pas trop, mais bref, c'est un village que d'hommes. Et il n'y a personne d'autre. Il ne rencontre jamais personne d'autre. Ce village, il est dirigé par le maire. Todd, il vit avec ses deux oncles. Parce que, en fait, toutes les femmes ont disparu au moment où le bruit est arrivé. Alors, le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité. Bon, je ne vais pas dire capacité parce qu'on va avoir l'impression que c'est un talent ou quelque chose de bien. En fait, c'est que d'un coup, les hommes se sont mis à entendre les pensées les uns des autres. Voilà, donc ils vivent avec, et c'est tout à fait normal dans la vie de Todd, ce brouhaha constant de dépenser de tout le monde autour. Alors la plupart du temps, c'est ça, c'est comme un brouhaha, un mélange de toutes les pensées de tous. Et puis des fois, voilà, il y a une voix qui en sort un peu, etc. Donc Todd vit dans ce village, dirigé par Monsieur le maire, et s'apprête à passer à l'âge adulte, à devenir un homme. Voilà. Le début de l'histoire, c'est ça. Et un jour, il se balade en forêt et il y a un trou dans le bruit. Un trou, donc c'est très bien tourné parce que il dit pas qu'il y a plus de bruit, il dit qu'il y a un trou dans le bruit et c'est très bien expliqué comme si d'un coup il y avait une espèce de vide dans lequel il a même presque peur de plonger.
Le silence, c'est ça?
Eh bien, c'est plus que du silence. C'est vraiment le terme trou est beaucoup plus adapté et c'est le talent, je trouve, de Patrick Ness dans ce bouquin-là. C'est que c'est pas du silence, c'est un trou. Un trou, et moi j'imagine le trou noir, vous savez, ouais, qu'avale tout et qui c'est au-delà de juste un écran noir. C'est beaucoup plus que ça, ça avale presque tout. Et ce trou dans le bruit, c'est une fille, c'est Viola. Voilà. Et donc la fin, c'est incroyable, parce que pour lui, les femmes, ça n'existe pas. Il sait à peine à quoi ça ressemble, il a une petite idée, mais enfin voilà, les femmes, ça n'existe plus, elles ont toutes disparu, et pourtant Viola est là, et en plus, il y a un trou dans son bruit. Donc, évidemment, lui, il panique un peu. En plus, un habitant du village, un homme du village, entend que Todd a vu une fille, puisqu'évidemment, il entend ses pensées. Et cet homme-là a des pensées atroces, tout de suite, envers Viola. Voilà. Il imagine qu'il va lui faire des choses horribles. Et donc, Todd panique, va voir ses oncles qui lui disent « Va-t'en ». Et là, il fuit avec Viola et commence une espèce de course-poursuite. Il fuit, il ne sait pas bien ce qu'il fuit, il ne sait pas pourquoi il fuit. Et puis, petit à petit, évidemment, il va découvrir, il va comprendre pourquoi il vit dans ce village d'hommes. Est-ce qu'il y a des choses autour? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toutes les femmes ont disparu? Et c'est une course qui dure sur 3 bouquins. Hein, c'est... Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre pour la jeunesse. Hein, on est dans un livre pour ados. Il n'est pas dans la violence gratuite Patrick Ness, mais par contre, il ne mâche pas ses mots. C'est-à-dire que on montre que les hommes peuvent être violents, les femmes peuvent être violentes, que le pouvoir, ça peut rendre mauvais, que voilà, qu'il y a des choses assez dures dans la vie, et sans être cru ou sans être déplacé. Il va nous montrer tout ça. Est-ce que peut être l'avenir quand il y a des jalousies, quand il y a du pouvoir en jeu, quand il y a voilà. Et c'est vraiment haletant. Le terme qui s'adapte bien à ce livre, c'est-à-dire que tu finis un chapitre, tu veux savoir où vont Todd et Viola, qu'est-ce qui va leur arriver, est-ce qu'ils vont rencontrer d'autres gens, parce que évidemment. Ils s'en vont, vous vous doutez bien que y a des gens qui vont les poursuivre. Oui. Ils vont pas les laisser partir parce que ce village d'hommes tout seul, toutes les femmes ont disparu. Enfin, c'est quand on y réfléchit, nous vu de chez nous, on se doute bien que.
On apprend pourquoi.
Oui, on apprend pourquoi, on comprend tout, et c'est une logique incroyable. Enfin, c'est très très bien construit. C'est très bien écrit. C'est-à-dire que un ado à partir de, alors je vais dire peut-être 13-14 ans pour la violence, pour l'aspect violent, même si bon, j'imagine qu'ils voient des choses bien plus violentes dans leur vie, mais il y a des passages très durs hein, quand même. Non, c'est une excellente série et
trilogie. Hein.
Trilogie. Ouais, trilogie, mais d'accord. Qui se lit d'une traite. Moi, c'est une relecture que j'ai faite récemment. Parce que c'est un livre qui doit avoir dans les 10 ans, peut-être.
2008-2010.
Ah ben, un poil plus de 10 ans. Mais voilà, c'est vraiment génial. Et donc, moi, j'essaye de le forcer dans les mains de mes élèves parce que je sais que c'est un livre qu'ils ne connaissent pas. Il n'a pas eu le succès de Hunger Games ou de... Et pourtant, il le mériterait. Et effectivement, quand je le mets dans les mains d'un élève, quand j'arrive à le faire ouvrir à un élève... C'est un succès immédiat. Ils adorent. Ouais. Donc vraiment, faites-le lire à vos ados, c'est génial.
C'est fou comme quoi la communication sur un livre, ça change tout.
Hein. Ah oui, ouais.
Bah, surtout ouais. qu'il a extrêmement bien marché en Grande-Bretagne. Donc,
ah bah oui. Et que Patrick Ness, c'est un auteur qui est assez reconnu. Alors moi, j'ai lu d'autres choses de lui, j'ai été vachement moins emballée.
Moi, j'ai rien lu de lui.
Hein. Ouais, moi, ça m'a pas. Voilà, ses autres livres m'ont pas forcément hyper touché. Mais alors, cette trilogie-là, c'est.
Bah, vu comme t'en parles, déjà, ça donne envie.
Ouais, pour les ados, génial. Ouais. Génial.
Oui, ça donne envie d'ailleurs.
Ouais,
en plus des romans d'adolescents. Hein, Marlène. Eh oui, tiens.
Ben oui, je suis une grande ado.
Hein. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de Cyborg.
Ouais, c'est ça. D'Android.
D'Android. Alors, Cinder, chronique lunaire de Marissa Mayer, qui est née en 1984, une romancière et novelliste américaine.
Ouais.
Alors, toi, c'est une trilogie aussi, non?
Non, même plus. Il y en a 4, il y a des préquels, il y a des suites. Maintenant, ça foisonne, puisque ça marche bien, ça foisonne. Bon, alors, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, l'ASF, à la base, c'est pas trop quelque chose vers lequel je vais facilement. Mais là, pour le coup, ouais. Ben, tu viens de dire une trilogie, je l'ai lue en... pas longtemps. Premier tome, j'ai mis 1h30 à lire. Enfin, vraiment, voilà. J'ai beaucoup aimé l'entrée. J'ai beaucoup aimé l'approche. Donc, les Chroniques Lunaires, il y a plusieurs tomes. Là, je vais surtout m'attarder sur le premier, mais je vais quand même expliquer un petit peu le concept de l'autrice sur tous les autres. Donc, le premier, c'est Cinder. Et la référence littéraire, ce sera du coup Cendrillon. Donc, c'est un livre qui va nous faire forcément penser à l'histoire de Cendrillon. Puisque l'héroïne, c'est une cyborg. Bon, là, pour le coup, non. On est dans la SF, mais...
Ouais, c'est pas trop son nom.
Voilà. Elle est mécanicienne, mais... Voilà, elle vit avec sa belle-mère et ses deux sœurs. Et elle fait toutes les basses besognes. Voilà. Bon, là, on sait, hein, la référence, elle y est. Voilà. Elle y est sur plein d'autres choses. Alors, dans ce livre, nous avons aussi une pandémie qui ne sera pas le Covid, mais qui sera la laitumose. Voilà, et qui tue les humains, et ils savent pas comment ça se transmet, et voilà. Et donc, on a plusieurs grades de...
Pour se manger de la salade.
Je suis pas sûre. voilà. Il y a forcément aussi, en fond, une guerre intergalactique, mais là, du coup, c'est entre la Terre et la Lune, puisqu'on est quand même, donc, sur une histoire qui se passe sur Terre, avec des humains, qui vivent, alors là, maintenant, les années, c'est tellement loin que c'est des années 60 captées, enfin, des trucs comme ça, qui, du coup, ont pour, comment on va dire, pas esclaves modernes, mais des robots, qui, voilà, et des androïdes, cyborgs. Donc, le cyborg, là, pour le coup, il va être vraiment un humain qui a eu un accident et qui a été robotisé pour partie. Voilà. Donc pour que ils puissent encore un peu vivre, mais vivre sous forme. Et par contre, ils deviennent des parias. Hein. C'est pas eux, c'est voilà. Ils sont un peu parias. Et donc cette Cinder là, elle est paria puisqu'elle est cyborg. Elle sait pas trop ce qui lui est arrivé avant ses 11 ans. Elle a totalement oublié. Là, elle a 16 ou 17, je sais plus, ouais, 17, je crois. Et bon, on va la voir évoluer. Vraiment comme Cendrillon, sur Terre. Alors, la ville, ça s'appelle Neo Beijing. Donc, c'est un peu le nouveau Pékin. Ça fait, enfin, voilà, c'est très, hein. On est, il y a des, enfin, voilà, on se déplace en vaisseau, en hover, en station-nef. On a, alors, ils appellent, c'est marrant. Donc, tout ce qui, on a parlé tout à l'heure un peu d'écran. Tu disais télévision pour, voilà. Là, c'est tous les écrans, que ce soit télé ou portable. Maintenant, ils appellent ça des holocrans. Ils sont tous reliés les uns aux autres et en fait on communique comme ça, on se balance style comme des textos en fait de maintenant quoi, ou avec des hologrammes, ça fait apparaître ton image, tu racontes ce que tu veux, voilà. Par contre les cyborgs, eux, ils ont ils peuvent lire voilà, ils ont une petite fenêtre, ils peuvent faire les recherches directement. C'est excellent, donc on voit en même temps. Bon voilà, c'est moi ça m'a fait kiffer, je me suis dit ouais, c'est trop cool, c'est pratique. On peut faire plein de choses en même temps. Bon voilà. Et donc elle est dans ce nouveau Pékin là et bien sûr il y a un roi régnant et un prince. Bah oui, sinon c'est pas Cendrillon hein. Donc voilà, donc lui par contre il s'appelle, je sais plus, Kay ou Jay, je sais jamais. Et bon, ben voilà, elle va le rencontrer, mais parce que en fait, bizarrement, sa sœur attrape la laitumose et pas elle. Sa sœur en meurt et pas elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre tout ça. Et en fait, c'est avec, donc là on est, il y a tellement d'histoires dans l'histoire que quand je disais qu'il y avait une guerre, c'est que du coup il y a un peuple des lunaires, donc qui habite sur la lune, qui veut absolument annihiler la Terre et la contrôler, tout ça, avec une reine qui fait penser
à Poutine.
Ouais, mais non, parce qu'elle est très belle en fait. Elle arrive à faire croire aux gens qu'elle est belle alors qu'elle est hideuse en fait. Mais qui a un pouvoir de manipulation mentale. Du coup, quand tu disais qu'ils entendaient les pensées tout à l'heure, là c'est je vais te manipuler pour que tu m'adules et que tu voilà, que tu me veuilles comme impératrice, tu vois. Voilà.
Trop ministre, cool. Elisabeth voilà. Borne, non.
Peut-être. Je ne sais pas si tous les Français sont tombés sous son charme, mais bon.
Elle voilà. Essaye, en tout cas, elle essaye.
C'est ça.
Nico et du coup, ça va être
ça. Mais pas vraiment, non. Voilà. Ça marche pas bien, quoi.
C'est bien ado, quand même. Ce
c'est
que
très,
tu
très
décris.
Ado, très mais ado, en même temps, du coup, c'est hyper facile, quoi. Et bon, alors, dit comme ça, bon, ça fait un peu bizarre, mais. Et en fait, tous les tomes vont être donc. Bon, Cinder, ça va être on va dire, l'héroïne principale quand même, parce que c'est elle qui va pouvoir enfin faire chuter et arrêter la guerre entre la Lune et la Terre, de par son histoire, mais qu'elle ne connaît pas encore, qu'elle va apprendre petit à petit. Et donc après, dans tous les tomes, elle va rencontrer d'autres personnages qui eux aussi vont avoir une histoire et qui vont être raccrochés à d'autres contes. Donc dans le deuxième tome, c'est Scarlett. Et Scarlett, en fait, on est sur le petit chaperon rouge. Le tome 3, c'est Cress, ça va être Réponse. Et le tome 4, c'est Winter, ça va être Blanche-Neige. Voilà. Okay. Et en fait, ça va devenir un petit peu, alors je disais tout à l'heure en aparté, un peu comme la communauté de l'anneau, là. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'elle va rencontrer un personnage, ils vont venir avec elle pour combattre.
D'accord.
Tac, 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 tac. Et au fur et à mesure,
ça fabrique une bande, quoi.
Power
voilà.
Rangers.
Il fabrique une petite bande de contes et d'héroïnes de contes. Voilà. Et puis bon, il y a d'autres personnages autour, mais voilà. Et ils vont combattre cette magnifique reine lunaire, là, qui s'appelle Levana, et voilà. Et je vous raconte pas, sinon c'est pas drôle.
Non, on raconte pas.
Et par
tout,
contre, voilà. Donc, ça a tellement bien fonctionné que, du coup, l'autrice a maintenant sorti un préquel qui raconte l'histoire de Levana.
Okay.
Un petit tome qui raconte l'histoire de Cinder avant ses 11 ans, pour qu'on sache un petit peu qu'est-ce qui s'est passé.
Et c'est
mieux.
Pas trop. Parce que souvent, quand on rajoute,
Ceux-là, je les ai pas lus.
D'accord.
Donc voilà.
T'as lu les quatre, toi.
Ouais. C'est facile, quoi. Donc pour les ados, super. Et pour justement peut-être ceux qui ont du mal à rentrer dans la SF et qui voient pas trop. Alors on n'est pas dans la SF pour les adultes et tout ça. Mais déjà pour avoir une première approche et y rentrer sans que ça fasse trop peur ou sans que on se dise je vais pas aimer, c'est possible.
Voilà. Ok, c'est maison d'édition, c'est qui ?
Ça va, c'est Pocket Jeunesse.
Pocket Jeunesse.
Ouais.
Ok, on n'a pas. Voilà. On parlait d'auteur. Merci Marlène d'en parler d'auteur français tout à l'heure. Justement, Nico, tu vas nous en présenter un. Paul-Jean Hérault, de son vrai nom, Michel Rigaud, qui est né en 1934, mort en 2020, et qui a écrit Cale de terre.
Tout à fait. Voilà. 2013.
C'est ça.
Donc c'est un bouquin qui est assez récent. Oui, Cale de terre, en fait, c'est une trilogie. Trois tomes, donc. Que moi, j'ai trouvé intéressant. Alors, c'est vrai que je lis très peu d'auteurs français, Damasio, que j'avais lu.
Bordage,
ouais, oui, j'ai beaucoup aimé Bordage. Ah ouais. J'aime beaucoup son écriture. Très... très romantique d'ailleurs, Bordage. Très poétique aussi. J'ai beaucoup aimé son écriture. Dans Cale de terre, en fait, c'est l'histoire d'un personnage principal qui. Alors, c'est un premier constat qui est quand même assez dramatique. En fait, il se réveille dans une capsule spatiale, loin de la Terre. Il se dit : mais qu'est-ce que je fous là ? Où est-ce que je suis ? Il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et en fait, il comprend progressivement qu'il. Il sait pas du tout où il est dans l'espace, quoi. Donc, il se reconnaît pas. Et en fait, il comprend progressivement qu'en fait, il est dans cette capsule et ça fait plusieurs milliers d'années qu'il est en hibernation dans cette capsule. Et il se retrouve, il est réveillé étrangement face à une espèce de planète bleue très belle. Voilà, qu'il observe de, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et progressivement comprend qu'en fait, la Terre a été détruite et qu'il s'est, qu'il est parti, il s'est évacué vraiment au dernier moment de la Terre et il a été propulsé comme ça à travers l'univers et la capsule avait été réglée pour aller à un certain endroit, voilà, dans la galaxie et il se retrouve au bord d'une planète bleue. Donc il atterrit sur cette planète bleue et là il découvre le peuple des Vahussi, un peuple assez primitif mais au début de leur civilisation en fait ce peuple. Qui vit vraiment d'amour et d'eau fraîche, c'est un peu, l'impression d'être tombé au paradis, quoi. Mm-hmm. Et donc il arrive comme un dieu, en fait, parce que,
il tombe du ciel,
il a énormément de connaissances et en fait, ce peuple très pacifique, l'adopte et en fait lui donne à manger et progressivement. Il leur apprend les choses qu'il connaît. Et bien sûr, il maîtrise tellement de choses. Et il a une histoire, il a une connaissance technologique et des outils technologiques tellement puissants qu'en fait, il fabrique au fur et à mesure et il se pose une première question existentielle qui dit, mais est-ce que le fait d'intervenir dans l'évolution de cette civilisation qui naît, je vais pas leur amener des choses négatives. Donc il se pose la question, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Donc il s'en va une première fois et puis il se dit non, finalement peut-être ce que je peux faire c'est les empêcher de faire ce qu'on a fait nous sur Terre. Et donc il a tout un raisonnement qui l'amène à reconstruire une civilisation en leur amenant et en leur évitant les écueils, la guerre, etc. Et en fait dans ces trois tomes on découvre à chaque fois qu'il découvre d'autres peuples qui, en fait, commencent à s'affronter. Et on reconnaît, en fait, la même histoire que sur Terre, l'appropriation, le pouvoir, etc., etc. Et donc, à chaque fois, c'est des épreuves. Et il essaye de contrecarrer ça pour annihiler les effets de cette violence. Et je peux pas raconter tous les tomes, mais c'est vraiment très très bien construit. Le premier tome, il est haletant, vraiment. On découvre ça, on a envie de savoir ce qui va se passer, ouais, comment ce peuple va évoluer. Est-ce qu'il y arrive et pourquoi on devient aussi belliqueux? Pourquoi on a besoin de s'approprier l'espace des autres? Pourquoi le pouvoir? Pourquoi la richesse? Pourquoi la vanité? Pourquoi tout ça? Et d'où ça vient, en fait? Voilà. Et comment on est construit? Donc, c'est à la fois, c'est pas très, très technologique, on va dire. C'est plus sur la construction d'une civilisation. Donc, c'est passionnant. Et en même temps, c'est un regard qui porte sur toute notre histoire, parce que étrangement, on pense à tous ces peuples reculés, on pense et en même temps, on fait un voyage à travers l'histoire, c'est-à-dire on reconnaît les peuples primitifs, on reconnaît le Moyen Âge, on reconnaît la Renaissance, on reconnaît la première ère industrielle, on reconnaît tout ça. En fait, il mélange un peu tout ça, plus ou moins bien décrit, plus ou moins bien fait dans certains tomes, mais c'est pas le plus important en fait. Le plus important, c'est la réflexion qu'il amène et comment progressivement il va s'isoler. Et donc, à un moment donné, il décide de terraformer une autre planète qui est à côté pour s'isoler du reste du monde et recréer une civilisation. Dans le dernier tome,
tu dis tout là.
C'est ce qu'il essaye de faire.
Oui, parce qu'on a envie de le lire quand même.
Mais ouais, je sais pas. Du coup, pour savoir.
Mais si par contre, on sait pas. Enfin, je peux pas vous dire s'il arrive ou pas. Quoi.
C'est écrit petit. Hein. C'est écrit trop.
Non, mais
petit,
c'est passionnant. Moi, j'ai trouvé vraiment c'est passionnant. Et c'est d'une grande richesse. Alors, ça demanderait peut-être d'avoir une dizaine de tomes pour aller plus loin dans l'exploration de ces civilisations. Voilà. Mais le lien est, et comment aussi il y a un côté qui est très très intéressant dans ce bouquin, c'est comment qu'est-ce qu'on fait de tout ce pouvoir en fait quand on maîtrise une technologie qui a des millions d'années d'avance sur les autres. Finalement, avec ce pouvoir, est-ce qu'on se prend pas pour Dieu? Et qu'est-ce qui fait qu'on va se limiter? Et comment lui se pose ces questions-là? Et qu'est-ce qu'il en fait, quoi?
Et puis tu peux toujours aller plus loin.
Oui.
C'est ça aussi avec la SF, c'est que tu peux toujours
en rajouter.
Tu peux
en fait
toujours aller plus
7
loin.
7 volumes, hein.
Puisque là, tu. Enfin, voilà.
Ah oui, c'est une petite.
Tu t'interroges, mais tu peux toujours.
7 volumes, 1975-1984.
Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il découvre qu'en fait, il y a une autre civilisation intergalactique qui vient visiter ce monde. Et c'est cette relation entre lui qui est devenu presque un dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et comment il va se confronter pour empêcher, en fait, que cette autre civilisation découvre les Vaïussi. Voilà. Donc c'est passionnant, c'est intéressant. Et
mais ça doit amener à poser plein de questions.
Ouais. Parce oui, que... oui, oui. Mais ça pose des questions, en fait, de ce qu'on vit et pourquoi on se contente pas. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il dit, je vais tout abandonner et je vais redevenir un Vaïussien, du coup, vivre comme eux. Donc, il tombe amoureux d'une des femmes du village. Et puis, il se dit, je vais construire ma hutte avec elle et faire des enfants. Et en fait, il a des enfants avec cette femme. Et comment il abandonne, il est obligé d'abandonner ses enfants. Enfin, c'est plein de questions sur la paternité, sur le rôle qu'on a à jouer. En même temps, c'est plein d'espoir quand même.
Ah, quand même, parce que moi je le ressens pas. Hein.
Bon, du coup, c'est plus trop de questions là. Qu'est-ce que
non,
pourquoi faisons-nous ça?
C'est bien écrit, mais c'est à chaque fois il y a plein d'espoir. Parce que ça t'amène à dire, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce qu'il va aller au bout? Est-ce qu'il va réussir?
Oui.
Tu vois?
Ah. Eh bien, vous ne le saurez pas, sauf si vous lisez ces 7 volumes
accrochez-vous.
Qui sont peut-être plus édités. Si, certainement, c'est un des plus grands représentants.
Moi, je l'ai acheté
la
il n'y a pas très, très longtemps. Hein.
Ouais. Ouais, oui, enfin, tu l'as acheté.
Non, mais pas en 2013, je l'ai acheté quoi, il y a 2 ans peut-être.
Ah, d'accord, ok.
C'est collection, c'est quoi?
C'est Bragelonne.
Ouais, c'est Bragelonne. Et le B, il me semblait reconnaître le B, ouais.
Ok, merci. Ouais, bon, il y avait plein d'auteurs aussi. On voulait vous parler de plein d'auteurs, d'Asimov, d'autres. On n'a pas le temps, mais on en refera comme
dans
ça.
Dans la collection, dans les bouquins que j'avais amenés, en fait, j'avais fait un panel entre les auteurs français, quelques auteurs français, des classiques comme Arthur C. Clarke, qui est quand même un grand du nom, avec Tomorrow's Dog, avec les bouquins qu'il a écrits. Et je trouvais que c'était intéressant peut-être aussi d'en parler. Bon, là on n'a pas le temps, mais il y a tellement, enfin, c'est d'une très très grande richesse en fait.
Mais on reviendra sur la science-fiction.
Sur la littérature.
Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Science-fiction, fantasy, tout ça, on revient régulièrement. Bon, le mois prochain, on se retrouve.
Bah, bah, si, avec c'est quel toi thème, qui as gagné, c'est toi qui dessine.
Tiens, t'as tes 20 secondes d'antenne, là. Vas-y.
Je n'en ai aucune idée.
Bah, la SF.
Bah, tu parlais de la fantasy. On n'a jamais parlé. Fantasy.
On n'a pas fait fantasy.
Oh, oui, ça fait longtemps, ouais.
Ça fait longtemps.
Bon, j'ai pas trouvé Jean-Jacques Goldman, donc j'ai pas trop droit.
Mais, ouais. Mais bon, tu peux structurer quelques idées. Écoute, on te laisse réfléchir et ça sera la surprise. Allez,
on l'a déjà fait.
On l'a déjà fait.
On en a fait pas mal. Hein.
Ouais. Et comme dirait l'autre.
Au revoir.
C'est pas mal.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y a plein les commissariats, plein les directionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas.